écoutez Historama, l'histoire d'un jour. Aujourd'hui, le 14 avril 1931, l'abdication du roi d'Espagne, Alphonse XIII. Alphonse XIII naît en 1886. Il est le fils posthume du roi Alphonse XII. Il débute son règne en 1902, alors que l'Espagne se remet à peine de la guerre hispano-américaine de 1898. La grave crise économique de 1917 altère son prestige. L'instabilité du régime parlementaire, l'agitation sociale, la montée de l'anarchisme, la guerre du Rif conduisent à la dictature longtemps populaire du général Primo de Rivera qui gouverne de 1923 à 1930. Le 12 avril 1931 se déroulent des élections municipales. Les grandes villes sont favorables au parti de gauche. Les campagnes demeurent fidèles à la couronne. Deux jours plus tard, la République est proclamée à Madrid. Place d'Orient, face aux grilles du Palais Royal, la foule survoltée s'agite. Des cris, des insultes, des huées sont perceptibles. C'est l'allégresse féroce d'un peuple enivré par une victoire dont la stupéfiante facilité l'étourdit encore. À 45 ans, Alphonse XIII possède une véritable gueule de roi. Le profil est celui d'un rapace, la lèvre inférieure en gargouille et la mâchoire insolemment lancée en avant sous l'effet d'un vieil impératif héréditaire. Le front est haut, les tempes sont dégarnies, l'œil charbonneux se révèle insistant, le roi se tient très droit, son corps mince et musclé épouse de près l'uniforme auquel chacun de ses gestes confère une allure, une majesté menaçante. Bourbon à fleur de peau, il est solitaire, mélancolique, distant, courtois, mais hautain. Son humour est sombre et macabre. En 30 années de règne, il a affronté de nombreuses crises politiques. Il a échappé à de multiples attentats. Son courage physique est légendaire. Devant la foule amassée face au palais d'Oriente, Alphonse XIII convoque le général Jorge Sanhorio. Il l'interroge sur son attitude en cas de répression. La réponse est limpide. On peut compter sur mes hommes et sur moi-même pour le maintien de l'ordre, non pour le maintien du régime. À peine sorti de son audience avec le souverain, le chef de la garde civile se précipite au siège du comité révolutionnaire pour assurer Alcalá Zamora de sa neutralité. Pris de peur, le futur président de la République espagnole tente de s'enfuir par une fenêtre. Le 14 avril, à midi, le comte de Ramones, chef du Parti libéral, prend contact au nom du roi avec Alcalá Zamora pour rechercher une solution de conciliation. Les républicains sont fermes, ils exigent le départ pur et simple du monarque. Le comte de Ramones conseille à Alphonse XIII de s'incliner. La renonciation est inévitable. Le roi s'assied à sa table de travail, il saisit une plume fichée dans son encrier d'argent et de son écriture haute et pointue, rédige son ultime proclamation au peuple espagnol. Il estime que les élections générales prouvent que l'amour des Espagnols ne lui est plus acquis. Mais il considère ce désamour comme temporaire. Il reconnaît qu'un souverain peut se tromper. Cependant, il rappelle que l'Espagne a toujours eu l'élégance de pardonner les erreurs exemptes de malice. Enfin, il affirme avoir encore les moyens de défendre par les armes ses prérogatives royales. Toutefois, il se déclare incapable d'engager une lutte fratricide entre Espagnols. Il renonce à aucun de ses droits qui constituent un dépôt de l'histoire et non pas un bien personnel. Il annonce qu'il suspend délibérément le pouvoir royal pour que la nation puisse agir en maîtresse souveraine de son destin. Ainsi, l'avenir reste sauf. Sitôt sa déclaration signée, Alphonse XIII fait ses adieux à l'héritier du trône, le prince des Asturies, son fils aîné. Le prince, hémophile au dernier degré, tient à peine debout. Son père l'embrasse, il fond en larmes. Le roi rejoint ensuite les appartements privés de la reine. Donna Victoria Eugenia l'attend entourée des infants Don Remme, Don Gonzalo et des infantes Donna Cristina et Donna Béatrice. Seul Don Juan, comte de Barcelone, est absent. Alphonse XIII les embrasse et dit à son épouse d'une voix à peine audible « Je vous confie tous à la sauvegarde du peuple espagnol ». Il dîne légèrement avec son cousin Don Alfonso d'Orléans, puis une cigarette à la bouche, il pénètre dans sa chambre à coucher et décroche du mur un crucifix en ivoire ainsi que le fanion mauve des Bourbons qu'il enroule avec soin avant de le placer dans son nécessaire de voyage. À 20h précises, Alphonse XIII paraît en haut du grand escalier de marbre qui mène de l'étage noble à celui des appartements privés. Il est habillé d'un costume en tweed gris et porte à la main un chapeau dont le ruban est orné d'une plume de faisan. Des serviteurs et des hallebardiers de sa garde personnelle l'entourent. Il cache sa déception. Au pied de l'escalier, le commandant de la garde royale, Don Rufino Lucas, lance de toutes ses forces un vibrant « Viva el Rey !». Le souverain déchu descend les marches avec une lenteur voulue. Il s'arrête, étreint des mains qui se tendent, serre certains contre sa poitrine, embrasse parfois. Une grande voiture découverte, moteur déjà en marche, l'attend. Un instant, il regarde intensément une dernière fois le palais Oriente, se ressaisissant. Il salue longuement de la main l'ultime carré de ses partisans, puis il se met au volant. Le cortège se dirige vers Carthagène, où Alphonse XIII embarque à bord d'un croiseur de la marine espagnole en direction de Marseille. Il rédige deux proclamations, l'une destinée à l'armée, l'autre à la marine. Il remercie marins et soldats de leur loyauté envers la couronne et supplie les uns et les autres de continuer à servir la patrie avec la discipline et l'efficacité qui ont toujours fait la gloire des deux institutions militaires. Monarque exilé, Alphonse XIII accompagne le comte de Barcelone en Angleterre où il poursuit ses études. En 1936, il se fixe en Suisse. 5 ans plus tard, sentant sa mort prochaine, il abdique en faveur de Don Juan. Il décède à Rome le 28 février 1941. Nous allons marquer une pause musicale dans cette émission Historama. C'est Gilbert Bécaud qui nous accompagne en chanson. Nous écoutons un titre de 1961 et maintenant.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant que tu es parti? Toute ces nuits. Pourquoi, pour qui? Et ce matin qui revient pour rien, ce cœur qui bat, pour qui, pourquoi, qui bat trop fort, trop fort. Et maintenant, que vais-je faire? Vers quel néant glissera ma vie? Tu m'as laissé la terre entière, mais la terre sans toi c'est petit. Vous mes amis, soyez gentils. Vous savez bien que l'on n'y peut rien. Même Paris crève d'ennui. Toutes ces rues me tuent. Et maintenant, que vais-je faire? Je vais en rire pour ne plus pleurer. Je vais brûler des nuits entières. Au matin, je te haïrai. Et puis un soir, dans mon miroir, je verrai bien la fin du chemin. Pas une fleur et pas de pleurs au moment de l'adieu. Je n'ai vraiment plus rien à faire. Je n'ai vraiment plus rien.
Vous écoutez Historama, l'histoire d'un jour. C'est la chronique littéraire qui a été préparée comme d'ordinaire par Emmanuel et que j'ai plaisir à vous présenter. Quatre titres aujourd'hui et non pas trois comme d'habitude. Commençons par le livre de Mireille Calmel aux éditions Ixo, Morgane des Brumes, c'est le tome 1 intitulé « L'épée du pouvoir ». Nous voici replongés dans la légende arthurienne, mais là, sous le prisme des yeux de la fée Morgane. Au large des côtes bretonnes, sur l'île d'Aval, une communauté de prêtresses vit paisiblement à l'écart du combat des hommes. Parmi elles, Morgane, jeune fille fougueuse dont le caractère colérique et les origines cachées font redouter le pire à la grande prêtresse Viviane. À trois lieues de là, les jeunes Kay et Arthur observent les ténèbres recouvrir le ciel d'Armorique. Ils ne croient pas en la magie, mais devant eux, franchissant la mer, ce sont bien les navires à tête de dragon qui apparaissent. À bord, les hommes du Nord, décidés à retrouver le seul être capable de s'opposer à l'usurpateur du trône de Bretagne, l'héritier perdu de l'épée du pouvoir, précipités dans le chaos, Morgane, Arthur et Kay vont devoir affronter leurs peurs et leurs croyances les plus tenaces. Morgane des Brumes, le tome 1, l'épée du pouvoir, c'est signé Mireille Calmel et c'est publié aux éditions XO. Toujours aux éditions XO et toujours de Mireille Calmel, d'écume et de sang. Voici la confession datant de 1359. de Jeanne de Belleville, pirate au courage inouï, pire ennemi du roi de France sur terre comme sur mer, et cela en pleine guerre de 100 ans. Jean II le Bon lui a en effet arraché son grand amour, Olivier de Clisson, accusé de trahison en faveur et au profit du roi d'Angleterre, Édouard III, est condamné à mort pour cela. Au moment de la mort d'Olivier, elle est bannie, ses biens sont saisis et elle n'a plus d'autre ressource que de demander protection au roi d'Angleterre. L'épouse ne peut pardonner au roi sa cruauté, la tête d'Olivier plantée sur une pique est exhibée à Nantes. Jeanne contemple ce spectacle et jure de se venger. Un grand nombre de seigneurs de Bretagne épousent sa cause et avec eux, elle livre une guerre sans merci au roi. Considérant que le roi a agi par traîtrise, elle décide pour se venger d'acheter un bateau avec ses biens pour faire la guerre de course contre les navires de commerce français. Pendant quelque temps, elle inflige de sérieuses pertes au navire français, mais perd son navire au cours d'un naufrage. Elle deviendra ainsi la première corsaire de l'histoire. D'écume et de sang de Mireille Calmel, c'est publié aux éditions XO, aux éditions Presse de la Cité dans la collection Terre de France. Françoise Bourdon signe La Roche au Loup dans ce roman. Ce sont la gastronomie lyonnaise et le patrimoine stéphanois qui sont à l'honneur. De 1888 à 1914, nous suivons le destin d'Alexandrine, passionnée de cuisine, passion qu'elle va recevoir et transmettre. Elle est passementière, mais aspire à une autre vie. De sa rencontre avec Marin, excusez-moi, fils d'aubergiste, d'une table renommée dans le massif du Pilat, l'auberge au bois noir va naître cette passion. Et cela grâce à la transmission des secrets culinaires et des tours de main de la délicieuse grand-mère de Marin. Mais son couple se délite et elle devra retourner à Saint-Étienne, terminière, qui a endeuillé les siens. La Roche au Loup de Françoise Bourdon, c'est dans la collection Terre de France aux éditions Presse de la Cité. Pour terminer cette chronique, Le Chant des Martyrs de Jean-Luc Aubardier, toujours dans la collection Terre de France aux éditions Presse de la Cité. Voici un roman inspiré d'une histoire vraie. En Dordogne, en 1994, pour écrire un roman, Julien Leclerc se plonge dans la vie de la dernière châtelaine d'un village périgourdin, Gilberte de Montastruc, ancienne actrice. Lors de son enquête, il découvre un chant des martyrs sur lequel plane un mystère lié à la tragique période de l'occupation, le massacre à la fin de la guerre d'un groupe de très jeunes soldats allemands. Pourtant, les habitants semblent réticents à évoquer cette actrice qui, sous l'occupation, se réfugia dans la région. Pour les uns, cette séductrice a collaboré avec l'ennemi. Pour les autres, elle fut une résistante et une bienfaitrice. En cherchant la vérité, Julien rompt un statu quo maintenu depuis la guerre. Peu à peu, de tragiques événements sont dévoilés. Le Chant des Martyrs de Jean-Luc Aubardier, c'est aux éditions Presse de la Cité dans la collection Terre de France. Et nous refermons cette émission Historama avec Gilbert Bécaud. Nous écoutons l'un de ses plus grands succès, c'était en 1966, Nathalie. Et je remercie Lucas qui a réalisé cette émission. Je vous retrouverai avec grand plaisir la semaine prochaine pour de nouvelles narrations historiques.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchkine boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blancs, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Ils voulaient tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On en a tout mélangé, elle en a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et l'on a dansé. Et quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Et plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie. We'll be right back.